Première partie, Colmateur. Chapitre 1, An 3 de la Grande Crise. Flotte trisolarienne à 4,21 années-lumière du système solaire. Pourquoi a-t-il l'air si ancien? C'était la première question qui avait émergé dans l'esprit de Wu Yu devant le chantier de l'énorme vaisseau Tang. Il savait naturellement que cette impression lui venait des innombrables taches bleues laissées sur les plaques de manganèse de la coque par la toute dernière technique de soudage sous protection gazeuse, un effet renforcé par les étincelles des arcs de soudage. Il s'efforça de se représenter l'image du Tang neuf, une fois qu'il serait recouvert d'une fraîche couche de peinture grise, mais sans succès. Le quatrième exercice de navigation en eau côtière de la flotte du Tang venait juste de s'achever. Au cours de l'exercice, qui avait duré 2 mois, les deux commandants du navire, Wu Yu et Chang Beiyei, qui se tenaient maintenant à côté de lui, avaient dû camper des rôles étranges. Les équipages des destroyers, des sous-marins et des navires ravitailleurs étaient sous le commandement du groupe aéronaval. Mais le Tang se trouvait encore sur son dock de construction et, dès lors, la place qu'aurait dû occuper ce porte-avions était soit tenue par le navire d'exercice Cheng He, soit tout bonnement laissée vide. Pendant les exercices, Wu Yu occupait souvent le pont du navire de commandement, contemplant l'espace vide à la surface de l'océan, seulement troublé par l'ondulation des traînées des navires qui s'entrecroisaient avec angoisse, faisant écho à l'humeur de Wu Yu. Ce vide finirait-il par être comblé? Il s'était posé la question plus d'une fois. En regardant à nouveau le Tang inachevé, il ne voyait plus une construction archaïque, mais une sorte de ruine antique qui aurait connu toutes les vicissitudes de l'histoire. Devant lui, le vaisseau avait l'air d'une gigantesque forteresse abandonnée depuis des lustres, dont la coque tachetée évoquait l'immense muraille en pierre, et la pluie d'étincelles de soudure tombant depuis les échafaudages, les lierres recouvrant les murs. On n'aurait pas cru contempler un chantier, mais un vestige archéologique. Craignant de se laisser emporter par le fil de ses pensées, Wu Yu dirigea son attention vers Chang Beiyei. « Est-ce que ton père va mieux ?» Chang Beiyei secoua doucement la tête. « Pas vraiment. Disons que son état est stable. » Demande un congé? Je l'ai déjà fait quand il venait d'être hospitalisé. Vu comment les choses évoluent, je vais devoir attendre le moment venu. Puis tous deux plongèrent dans le silence. C'était la même chose chaque fois qu'ils en venaient à discuter de leur vie privée. Leur conversation portant sur le travail était forcément un peu plus étoffée, mais tous deux étaient invariablement séparés par une sorte de membrane. Beiyei, la mission qui nous attend n'aura rien à voir avec tout ce que nous avons pu connaître. Étant donné notre fonction, je crois que nous devrions communiquer davantage. Je suppose que nous sommes doués pour ça, parce que si nos supérieurs nous ont envoyés sur le Tang, c'est qu'ils ont dû prendre en considération la réussite de notre collaboration sur le Chang'an, s'amusa Chang Beiyei. Mais son rire demeurait indéchiffrable pour Wu Yu, bien que celui-ci pût être certain qu'il venait du cœur. Incapable de sonder le cœur de Chang Beiyei, il se disait qu'il ne pourrait jamais espérer le comprendre. Bien entendu, le succès d'une collaboration n'impliquait pas nécessairement une parfaite compréhension mutuelle. À l'opposé, Wu Yu était transparent aux yeux de Chang Beiyei. Ce dernier pouvait lire dans les tréfonds de l'esprit de chacun, du simple soldat jusqu'au commandant, comme dans un livre ouvert. C'était sans nul doute le plus brillant des commissaires politiques que Wu Yu avait eu l'occasion de rencontrer durant sa carrière. Question travail, Chang Beiyei était un homme d'une grande intégrité. Chaque infime prise de décision donnait lieu, avant et après, à des explications très minutieuses. Pourtant, son monde intérieur demeurait pour Wu Yu d'un gris insondable. Il avait toujours cette impression que Chang Beiyei voulait dire « Entendu, faisons comme cela, c'est peut-être mieux ainsi ou plus juste, mais je n'en suis pas forcément convaincu. » Cette sensation, bien que vague au premier abord, semblait devenir au fur et à mesure plus flagrante. Bien sûr, Chang Beiyei prenait toujours en fin de compte la décision la meilleure et la plus juste. Mais quant à savoir ce qu'il aurait vraiment voulu faire, Wu Yu l'ignorait. Depuis toujours, Wu Yu était fidèle à cet article de foi. Le commandement d'un navire de guerre nécessitait que les deux commandants comprennent parfaitement la façon de penser de l'autre. Et cette incapacité à comprendre Chang Beiyei lui pesait. Il s'imaginait que ce dernier avait instauré une sorte de bouclier entre eux, et il en était déconcerté. Un poste aussi dangereux que celui de commandant de destroyer, existait-il quelqu'un de plus honnête et de plus franc que lui? Pourquoi Chang Beiyei avait-il besoin d'être ainsi sur ses gardes? Pendant la brève période où le père de Chang Beiyei avait été leur supérieur à tous les deux, il avait eu une fois l'occasion de discuter avec l'amiral de ses difficultés à communiquer avec son fils. À quoi bon si le travail est bien fait? Au fond, pourquoi faudrait-il absolument savoir ce que pense Beiyei? Avait froidement lâché l'amiral. Puis, consciemment ou non, il avait ajouté « En réalité, moi-même, je n'en suis pas sûr. » « Allons voir un peu plus près, » proposa Chang Beiyei en pointant du doigt la coque étincelante du Tang. C'est à ce moment-là que leurs téléphones sonnèrent en même temps. Un message leur indiquait de retourner dans leur voiture. Tout le matériel de communication confidentiel qui s'y trouvait n'était généralement utilisé qu'en cas d'urgence. Wu Yu ouvrit la porte du véhicule pour décrocher le combiné. L'appel émanait du quartier général des opérations militaires.
« Commandant Wu, l'état-major de la flotte a une information urgente à communiquer au commissaire politique Chang et à vous-même. Vous êtes attendu au quartier général. »«
Au quartier général? Mais, et le cinquième exercice de la flotte? La moitié des troupes sont déjà en mer et le reste largue les amarres demain pour les rejoindre. »«
Je ne suis pas au courant. L'ordre est simple. C'est celui que je viens de vous transmettre. Pour ce qui est des détails, vous verrez à votre arrivée. »
Le commandant et le commissaire politique du vaisseau mère Tang, qui n'avait encore jamais quitté son dock, échangèrent un regard. Au bout de tant d'années, ils venaient d'assister à un de ces instants rares où tous deux crurent pouvoir deviner ce que pensait l'autre. L'espace à la surface de l'océan demeurerait vide à jamais. Fort Greely, Alaska. Les daims qui gambadaient sur la plaine s'immobilisèrent soudain, les sens en alerte. Ils avaient senti sous le sol enneigé des vibrations en approche. Devant eux, un dôme blanc s'était ouvert. Cette chose était là depuis longtemps, un gros œuf à moitié enfoui dans le sol. Les daims avaient toujours su qu'il n'appartenait pas à ce monde de glace. De l'œuf fissuré s'échappa tout d'abord une épaisse fumée, puis des flammes, aussitôt suivies par l'éclosion d'un énorme cylindre qui amorça son ascension dans un vacarme assourdissant. Une fois que le cylindre eut perforé le sol, les flammes qu'il traînait derrière lui s'élevèrent précipitamment. Les courants d'air chaud soulevèrent des congères qui embrumèrent le ciel et retombèrent en pluie sur le sol. Lorsque le cylindre eut atteint une certaine hauteur, le déchaînement de violence qui avait effrayé les daims un peu plus tôt fit de nouveau place au calme. Le cylindre s'était évanoui dans le ciel, ne laissant derrière lui qu'une longue traînée blanche, comme si la plaine enneigée était une pelote de fil qu'une main invisible tirait depuis l'espace.
« Fais chier ! Quelques secondes de plus et j'aurais pu interrompre le lancement !»
À des milliers de miles de là, à Colorado Springs, à quelque 300 mètres sous le mont Cheyenne, au commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, dans le centre de commande de la Missile Defense, Raider, l'agent de contrôle de la cible, jura en jetant sa souris de dépit.
« Je ne m'étais pas imaginé ça quand l'alarme du système s'est déclenchée », ajouta Jones, le contrôleur de trajectoire, en secouant la tête.
« Qu'est-ce que le système est en train d'attaquer ?» interrogea le général Fitzgerald. La supervision de la Missile Defense ne représentait qu'une partie des nouvelles responsabilités qui lui avaient été confiées, et il n'était pas très familier du système. En observant le mur couvert de terminaux informatiques, le général essaya d'identifier les écrans intuitifs, tels que ceux qu'on utilisait dans le centre de contrôle de mission de la NASA,
avec leurs lignes rouges ondulant comme des serpents paresseux sur les reliefs d'une carte du monde et qui finissaient par former ce qu'un profane aurait imaginé être de banales ondes sinusoïdales, laissant tout de même cette impression que quelque chose avait été envoyé dans l'espace. Mais ici, rien de ce genre. Les courbes qui s'affichaient sur les écrans étaient confuses et chaotiques et paraissaient, à ses yeux en tout cas, n'être détentrices d'aucune signification. C'était sans parler des écrans numériques où défilaient à toute vitesse des informations qui ne pouvaient être décryptées que par ces officiers de la Missile Defense qui n'arrivaient pas à dissimuler un certain mépris à son égard. Général, vous souvenez-vous lorsque la coque du module de la Station Spatiale Internationale a été recouverte d'une membrane réfléchissante? Les techniciens ont perdu l'ancien revêtement. Le voici. Sous l'influence du vent et du soleil, il s'est déployé et a formé une boule. Cette membrane devait être consignée dans la base de données de contrôle des cibles, non? Oui, c'est là. Raider déplaça le curseur de sa souris et afficha une page. Il fit disparaître des piles de textes, de données et de tableaux complexes pour afficher une photographie toute simple, sans doute prise par un télescope au sol. Devant un fond noir flottait un objet blanc argenté aux formes irrégulières, dont on ne pouvait voir les détails à cause de sa surface intensément réfléchissante. « Mais alors, commandant, pourquoi ne pas avoir interrompu le protocole de lancement ?»« L'identification des cibles est faite automatiquement grâce à la base de données. Une identification manuelle serait beaucoup plus lente. Mais les formats des données de l'ancien système n'ont pas été convertis. Ils n'ont donc pas été reliés au module d'identification. » La voix de Raider vrilla légèrement comme s'il voulait ajouter « J'ai montré à maintes reprises par le passé que j'avais les capacités pour remplacer manuellement et rapidement le supercalculateur du système de Missile Defense, mais je dois quand même subir l'interrogatoire d'un novice dans votre genre. Général, après que le système de Missile Defense a déplacé la trajectoire de ses interceptions vers l'espace, nous n'avons pas eu tout à fait le temps de recalibrer les systèmes logiciels, car nous avons immédiatement reçu l'ordre de fonctionner en mode de combat. « expliqua un officier. » Fitzgerald ne répondit pas. Le tic-tac qui résonnait sans répit dans le centre de contrôle avait le don de l'agacer. Ce dont il avait la charge, c'était officiellement le premier système de défense planétaire jamais imaginé par l'homme, mais dans la réalité, ce n'était ni plus ni moins qu'un système déjà existant ayant décalé ses trajectoires d'interception depuis les autres continents vers l'espace. « On devrait prendre une photo pour immortaliser le moment !» s'enthousiasma brusquement Jones. « C'est la première attaque terrienne contre un ennemi commun !»« Les appareils photos sont interdits ici, » dit froidement Raider. « Capitaine, qu'est-ce que vous racontez ?» s'emporta Fitzgerald. « Ce qu'a détecté le système n'était pas du tout une cible ennemie. Comment pouvez-vous parler d'une première attaque ?» Après un silence embarrassé, quelqu'un prit la parole. « Il y a des ogives nucléaires sur l'intercepteur, non ?»« D'une équivalence d'une mégatonne et demie, oui. Et alors ?»« Il va bientôt faire nuit dehors. Étant donné la position de la cible, on devrait être en mesure de voir l'explosion. »« On peut l'observer sur le moniteur. »« C'est plus amusant de la voir en vrai, » dit Raider. Jones se leva et eut du mal à contenir son enthousiasme. « Général, c'est l'heure de la relève. » « Pour moi aussi, général, » ajouta Raider. Tous deux prenaient en réalité congé du général uniquement par politesse. Fitzgerald n'était que haut coordinateur du Conseil de défense planétaire et n'avait aucun pouvoir, ni sur le commandement de la défense aérospatiale, ni sur la Missile Defense. Fitzgerald secoua la main. « Je ne suis pas votre supérieur. Faites comme bon vous semble, mais permettez-moi de vous rappeler qu'à l'avenir, nous risquons de devoir collaborer pendant encore longtemps. » Raider et Jones grimpèrent prestement jusqu'au dernier étage du centre de commande. Ils franchirent la porte anti-radiation, lourde de quelques dizaines de tonnes, et se retrouvèrent au sommet du mont Cheyenne. Sous le crépuscule, le ciel était limpide, mais ils ne virent pas l'éclair de l'explosion. « Ça devait pourtant être là !» dit Jones en pointant le ciel. « Peut-être qu'on s'est planté. » fit Raider sans lever les yeux. Puis, esquissant un sourire ironique, il lâcha.
Est-ce qu'ils croient vraiment que l'intellectron va se déployer en plus petite dimension?
Ça me paraît peu probable. C'est intelligent, ce truc. Ça ne nous donnera pas de seconde chance, affirma Jones.
Les yeux de la Missile Defense sont maintenant pointés vers l'espace. N'y aurait-il plus aucune menace à la surface?
Même si les pays terroristes ont rendu les armes, il reste cette organisation Tertrisolaris, non?
La clique des officiers du CDP veut pouvoir communiquer des résultats rapides. Fitzgerald est l'un d'entre eux.
Ils peuvent maintenant déclarer officiellement que la première étape du système de défense planétaire est achevée, même si, d'un point de vue matériel, il n'y a presque rien eu à faire.
Le seul objectif du système, c'est d'empêcher l'intellectron de se déployer en plus faible dimension près de l'orbite terrestre. Mais pour ça, la technologie nécessaire est encore plus basique que celle qui permettait d'intercepter jusque-là les missiles humains. Parce que si la cible se montrait vraiment, elle aurait une superficie gigantesque.
Capitaine, c'est pour vous parler de ça que je vous ai demandé de monter. Pourquoi vous comportez-vous comme un gamin sans cervelle? Une première attaque? Une photo? Vous avez énervé le général, vous savez? Vous n'avez pas encore compris que ce gars avait l'esprit étroit?
Mais je pensais au contraire l'avoir flatté en disant ça.
C'est typiquement le genre d'officier militaire qui fait attention à son image. Je peux vous assurer qu'il n'ira pas raconter en conférence de presse que le système a eu une erreur d'appréciation.
Comme tous les autres, il prétendra que la manœuvre a été une réussite, vous verrez, j'en suis sûr, affirma Raider.
Et tout en parlant, il s'assit par terre, croisa les mains derrière la nuque et leva la tête vers les étoiles qui venaient de perler le ciel. Il poursuivit sur un ton nostalgique.
« Dites, Jones, et si elle se redéployait juste une fois qu'elle nous offrait une petite chance de la détruire, ça ne serait pas génial ?»«
À quoi bon ? Il a déjà été prouvé que tout un tas d'autres intellectrons atteindront bientôt le système solaire. Personne ne sait combien il y en aura.
D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous dites « elle » et pas « lui » ?»
Raider leva la tête. Une expression rêveuse s'inscrivit cette fois sur son visage. « Hier, un colonel chinois qui vient d'arriver au centre m'a dit que, dans sa langue, intellectron ressemblait à un prénom féminin japonais. »
Chang Yuanchao avait remis la veille le dossier administratif de sa demande de départ à la retraite. Il allait quitter l'usine chimique dans laquelle il avait travaillé plusieurs décennies. Pour citer son voisin, Lao Yang, ce jour marquait le début de sa seconde jeunesse. Lao Yang lui avait raconté que 60 ans avec 16 ans était le plus bel âge de la vie. À 60 ans, tous les fardeaux que l'on portait sur les épaules à 40 ou 50 ans étaient derrière nous, et l'indolence et la maladie qui guettaient les septuagénaires et les octogénaires n'étaient pas encore arrivées. C'était l'âge idéal pour profiter de l'existence. Le fils et la belle-fille de Chang Yuanchao avaient chacun un boulot stable, et quoique son fils se fût marié assez tard, il savait qu'il ne tarderait pas à serrer une petite fille ou un petit-fils dans les bras. Ni lui ni son épouse n'auraient normalement pu avoir les moyens de s'offrir la maison qu'ils occupaient aujourd'hui, mais ils avaient été relogés ici après que leur précédent logement avait été rasé. Ils vivaient maintenant dans l'immeuble depuis plus d'un an. Tout bien réfléchi, il ne pouvait se plaindre de rien. Cependant, quand il observait le ciel clair de la ville depuis la fenêtre de son appartement du 8e étage, il ne sentait aucun rayon de soleil lui réchauffer le cœur. Alors, pour ce qui était d'une seconde jeunesse, il devait cependant bien admettre que Lao Yang ne se trompait pas quand il parlait de la situation de la nation. Son voisin, Yang Jinwen, était enseignant du secondaire à la retraite. Il préconisait souvent à Chang Yuanchao d'apprendre de nouvelles choses s'il voulait profiter de ses vieilles années.
Surfer sur Internet, par exemple. Si même les bébés y arrivent, pourquoi pas toi?
Il fit remarquer à Chang Yuanchao que son plus gros défaut était de n'éprouver aucun intérêt pour le monde extérieur. Sa vieille épouse, elle, au moins, séchait ses larmes devant ses séries télévisées à l'eau de rose, mais lui ne regardait même pas la télévision. Il devait se préoccuper davantage de la situation de la nation et du monde. C'était une part intégrante d'une vie bien remplie. Bien que Chang Yuanchao fût un Pékinois pur souche, il n'en avait pas l'air.
n'importe quel chauffeur de taxi de la ville pouvait analyser et cancaner pendant des heures sur le cours du pays et du monde. Mais lui, s'il connaissait bien sûr le nom du président, n'était même pas sûr de pouvoir nommer le premier ministre. Chang Yuanchao en tirait néanmoins une certaine fierté. Il racontait qu'il était un homme ordinaire, qu'il coulait des jours tranquilles, sans avoir besoin de se soucier d'affaires qu'il ne comprenait pas et qui n'avaient de toute façon aucun impact sur son existence. Grâce à ce recul, disait-il, il s'épargnait bien des tracas. Alors que Lao Yang, qui s'intéressait quant à lui aux affaires du monde, se faisait un point d'honneur de regarder quotidiennement les informations télévisées. Par ailleurs, le sang lui montait à la tête dès qu'il prenait part sur Internet à des débats sur la politique du pays ou sur la prolifération nucléaire dans le monde. Et malgré tout ça, aimait à lui rappeler Chang Yuanchao, le gouvernement ne lui versait pas un sou de plus sur sa pension de retraite. Yang Jinwen lui répondait « Lao Chang, tu es ridicule. Des affaires incompréhensibles. Des événements sans impact sur ton existence. Permets-moi de te dire, mon vieux, que toutes les grandes problématiques du pays et du monde, que n'importe quelle prise de décision politique nationale, n'importe quelle résolution des Nations Unies, finissent toutes, tôt ou tard, par influencer ta vie, directement ou indirectement. Tu crois peut-être que l'invasion américaine du Venezuela ne te concerne pas ? Je te le dis, cet événement aura à long terme un impact beaucoup plus important sur ton quotidien qu'une unité de plus sur ta pension de retraite. » Plus d'une fois, Chang Yuanchao s'était moqué de l'emphase de son ami. Mais il savait désormais que Yang Jinwen avait raison. Il sonna à la porte de Yang Jinwen. Celui-ci ouvrit. Il semblait revenir de promenade et avait l'air d'humeur légère. Chang Yuanchao le dévisagea avec le regard d'un voyageur solitaire dans le désert qui aurait enfin rencontré un compagnon et refuserait de le laisser partir. « Je t'ai cherché tout à l'heure. Où étais-tu parti ?»« Faire un tour au marché du matin. J'y ai croisé ta femme qui achetait des légumes. »« Pourquoi est-ce que tout l'immeuble a l'air si vide ? On se croirait dans un cimetière. »« Ce n'est pas férié aujourd'hui. Il ne faut pas te mettre dans un état pareil. C'est ton premier jour de retraite, c'est normal de te sentir comme ça. Et heureusement, tu n'étais pas patron. Ce sont eux qui ont le plus de mal à prendre leur retraite. » Tu t'habitueras vite. Viens, et si on allait faire un tour au centre de loisirs du quartier ? Non, non, ce n'est pas à cause de ma retraite, mais à cause de... comment dire, de la situation du pays. Ou plutôt, non, du monde. Yang Jinwen éclata de rire en pointant Lao Chang du doigt. La situation du monde ? Et ça sort de ta bouche ? Oui, oui. Avant, je ne me préoccupais pas de tout ça, mais ce qui est maintenant devant nous, c'est trop grave. Je n'avais jamais rien imaginé qui puisse être aussi grave. Lao Chang, ça me fait drôle de te le dire, mais j'en viens aujourd'hui à penser comme toi. Je ne m'occupe plus de ce que je ne peux pas comprendre. Crois-moi ou non, ça fait déjà 15 jours que je n'ai pas regardé les infos à la télévision. Avant, je me souciais des grands événements, mais c'était parce que les individus pouvaient avoir une carte à jouer, qu'ils pouvaient changer le cours des choses. Mais ça, c'est au-delà de nos compétences. À quoi bon se torturer l'esprit ? Mais tu ne peux pas simplement faire comme si ça n'existait pas. Dans 400 ans, il n'y aura plus aucun humain sur cette planète. Bah, dans 400 ans, ni toi ni moi ne serons plus de ce monde. Et notre lignée qui va s'interrompre. Sur ce point, je n'ai pas le même souci que toi. Mon fils s'est marié aux États-Unis, mais il ne veut pas d'enfants, et ça ne me fait ni chaud ni froid. Quant à toi, ta descendance peut encore se prolonger sur une dizaine de générations, non ? Réjouis-toi ! Chang Yuanchao fixa Yang Jinwen quelques secondes, puis jeta un œil sur son horloge et alluma la télévision. La chaîne d'info en continu retransmettait les principales nouvelles de la journée.
Selon un rapport de l'Associated Press des États-Unis, ce 29 août à 18h30 heure locale, le système de la Missile Defense américaine a exécuté avec succès un exercice de destruction d'un intellectron déployé en faible dimension sur une orbite terrestre basse. Il s'agit du troisième essai depuis que les trajectoires d'interception du système de la Missile Defense ont été dirigées vers l'espace. La cible atteinte lors de cet exercice est l'ancienne membrane réfléchissante de la Station spatiale internationale, abandonnée en octobre dernier. Le porte-parole du Conseil de défense planétaire, CDP, a déclaré que l'intercepteur, équipé d'ogives nucléaires, avait réussi à détruire la cible sans encombre. La surface de celle-ci était d'environ 3000 km², c'est-à-dire que la technologie du système de la Missile Defense aurait pu anéantir l'intellectron avant même qu'il ait pu se déployer en trois dimensions et prendre la forme d'un miroir réfléchissant potentiellement dangereux pour les habitants de la Terre.
C'est une perte de temps. L'intellectron ne se déploiera pas, soupira Yang Jinwen, tout en essayant de se saisir de la télécommande que Lao Chang tenait dans la main. Zap sur la chaîne sportive, ils sont peut-être en train de rediffuser la demi-finale de l'Euro de foot, je me suis endormi sur mon canapé hier soir. Rentre la regarder chez toi. Chang Yuanchao agrippa la télécommande pour empêcher Yang de s'en saisir. Il continua à regarder les informations.
Le médecin général de l'hôpital 301 où était soigné l'académicien Jia Weibin a confirmé que ce dernier était décédé des suites d'une leucémie. La cause directe de la mort a été provoquée par des hémorragies et une défaillance multiviscérale consécutive à l'état avancé de la maladie. L'autopsie n'a révélé aucun facteur anormal. Jia Weibin, expert notoire de la supraconductivité, a longuement travaillé sur les matériaux supraconducteurs à température ambiante, un domaine dans lequel il a apporté des contributions importantes. Il est décédé le 10 juin. Les rumeurs selon lesquelles l'académicien Jia Weibin serait mort à la suite d'une attaque d'intellectron sont sans fondement. Un porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que plusieurs autres cas de décès qui ont pu être présentés comme des attaques d'intellectron étaient le fait de maladies et d'accidents tout à fait ordinaires. Pour y voir plus clair, notre chaîne s'est entretenue à ce sujet avec le célèbre physicien Ding Yi.
Journaliste.
Que pensez-vous de la panique que suscitent aujourd'hui les intellectrons dans la société ?
Ding Yi.
Tout cela est la conséquence du manque criant de connaissances par le grand public des principes généraux de la physique. Le gouvernement et la communauté scientifique ont à plusieurs occasions apporté une clarification à ce sujet. En dépit de sa grande intelligence, un intellectron n'est qu'une particule microscopique dont l'échelle ne lui permet d'avoir une incidence que très limitée sur le monde macroscopique. Sa principale menace pour l'humanité est de provoquer des erreurs et des perturbations dans des expériences scientifiques de collision de particules à haute énergie et d'espionner la Terre grâce à son utilisation du phénomène de l'intrication quantique. En raison de son état microscopique, un intellectron est incapable de tuer un être vivant ou de mener tout autre type d'attaque. Pour qu'un intellectron puisse influencer plus sensiblement le monde macroscopique, il lui faudrait se déployer dans une dimension plus faible. Mais même dans cette situation, ses effets resteraient très modestes, car une fois déployé dans le monde macroscopique, l'intellectron deviendrait extrêmement fragile. Maintenant que l'humanité a mis en place un système de défense, il ne serait pas pertinent pour l'intellectron de se déployer, car ce serait offrir aux humains une opportunité idéale de le détruire. Je crois qu'il est du devoir des médias généralistes de mieux sensibiliser le public à cette question et de lutter contre cette paranoïa n'ayant aucun fondement scientifique.
Chang Yuanchao entendit quelqu'un entrer dans le salon sans frapper et crier « Lao Chang ! Maître Chang !» Au bruit des pas lourds qu'il avait entendus sur le palier, Lao Chang savait déjà de qui il s'agissait. C'était Miao Fukuyan, un autre voisin habitant au même étage de l'immeuble. L'homme était patron d'une usine de charbon dans la province du Shanxi, où il exploitait plusieurs mines. Miao Fukuyan était plus jeune de quelques années que Chang Yuanchao. Il possédait une maison bien plus grande dans un autre quartier de Pékin, et il utilisait cet appartement pour entretenir une jeune maîtresse du Sichuan qui avait à peu près le même âge que sa fille. Quand il avait emménagé dans l'immeuble, Chang Yuanchao et Yang Jinwen l'avaient proprement ignoré, lui reprochant même de laisser ses affaires en désordre dans le couloir.
Mais ils avaient vite découvert que derrière la façade un peu vulgaire de Lao Miao se cachait un homme avenant et chaleureux. Après que celui-ci fût intervenu auprès de l'agence immobilière pour les aider à régler un ou deux litiges les concernant, une entente cordiale était née entre les trois voisins. Si Miao Fukuyan soutenait que ses affaires étaient maintenant gérées par son fils, il n'en restait pas moins un homme occupé et ne fréquentait que rarement cette maison. La majorité du temps, l'appartement de trois pièces n'était occupé que par la jeune Sichuanaise.
« Lao Miao, ça fait bien plusieurs mois qu'on ne t'avait pas vu. Où es-tu encore allé faire fortune ?» demanda Yang Jinwen.
Miao Fukuyan se saisit nonchalamment d'un verre, le remplit à moitié au distributeur d'eau potable et le vida en une gorgée. Puis il s'essuya la bouche et répondit.
« Il y avait des problèmes à la mine, j'y suis allé pour les régler. Tu parles de s'enrichir. On se croirait presque en guerre. Le gouvernement ne laisse plus rien passer maintenant. C'est terminé le bon vieux temps. Les mines ne vont pas rester ouvertes bien longtemps. »
« Des temps difficiles s'annoncent, » dit Lao Yang, sans quitter des yeux le match à la télévision.